voix nue. Cette semaine, Michel Simon rencontre Pierre-William Glenn. Ce soir, de Piala et Lozay à l'enseignement.
Bonjour Pierre-William Glenn, donc on termine sur vos rencontres importantes et évidemment l'une d'elles c'est Alain Cornauve, ami dans votre jeunesse et avec qui vous allez travailler sur quatre films dont le premier, France Société Anonyme en 73, suivi de La Menace, puis Série Noire et enfin Le Choix des Armes, c'est-à-dire deux polars et puis deux films qui sont un peu, pour moi, parmi ses meilleurs, France Société Anonyme et puis Série Noire. Donc, comment se faisait ce travail avec Alain, qui était lui aussi un épris d'image?
Oui. Alain était, comme Bertrand, quelqu'un qui était extrêmement érudit sur et l'histoire du cinéma et qui pouvait faire des références à des films. Quand on a commencé tous ces films, on a fait des références, je parlerai après de Série Noire, donc qui a fait pour moi un film qui va rester, qui s'appelle France Société Anonyme, dans lequel c'était quasiment tant sur le propos, Alain était à ce moment-là très engagé politiquement, un propos extrêmement intéressant sur la mondialisation, sur la banalisation de la drogue, de la violence, de la manipulation, et des groupes qui sont des groupes anarchistes sur l'idée de la pornographie et la drogue pour tous, avec des Américains qui arrivent et qui mettent en place un système de domination, d'aliénation et totale des gens par la pub, qui était tout à fait étonnant. Ces acteurs étaient tout à fait étonnants. Il y avait beaucoup de gens du cinéma français. C'était Bouquet était formidable. Et le propos, c'est-à-dire raconter une histoire à partir de 2040, actuellement, avec un flashback, qui était un film très gonflé, je dirais presque qu'il n'y avait aucune censure, il n'y avait aucune méthode de découpage, de tournage, comme il va le faire après quand il va passer au film de genre. Et j'ai revu le film récemment, et je trouve que c'est un film important des années 70 qui est passé complètement à la trappe, et du public, et de la critique, et que c'est un grand dommage. Grand, grand dommage. Ce qui a amené Alain, malheureusement, pour moi en tout cas, à théoriser sur cet échec, on va dire, dur. C'est toujours difficile de digérer un échec quand on est aussi personnel. Donc il est passé sur quelque chose, à théoriser sur le film noir et le film de genre, donc qui est un genre beaucoup plus codé, à reprendre les références qu'on faisait au cinéma américain de série B quand on était à l'IDEC ensemble. Et c'est une idée qu'il reprend dans ses films qui marchent, qui fait affaire à un film qui s'appelle Police Python, 350 têtes, moi je fais autre chose à ce moment-là, et le film marche, avec Yves Montand, c'est Yves Montand qui vient le trouver, et il le fait grâce à Montand, et donc après il va faire théorie, film découpé, donc je reviens à ce que je disais, Corneau était un monteur, c'était pas quelqu'un qui était très heureux sur le plateau. Il était sur des références aux films noirs, il défendait beaucoup Clouseau, donc avec l'idée que le cercle magique du tournage, ça peut déraper, il aimait pas tellement ça, c'était un homme de contrôle. Et le premier film, on l'avait fait avec ces données-là, mais dans lequel il s'était donné une vraie liberté d'improvisation avec les acteurs, c'était gonflé, il y avait Aline McLeary, la fille de Jeremiah Johnson, la femme qu'on avait fait venir, qui était cette responsable de multinationale, qui préfigurait tout ce que nous connaissons maintenant, et les GAFA qu'on connaît maintenant. Donc, et le film était pour moi un film très réussi. Et après, il retombe, à mon avis, dans un cinéma de montage, à faire 40 plans pour une séquence, à pouvoir s'y retrouver. Et il était heureux dans la salle de montage, disant le tournage, le plateau était un lieu de conflit qu'il aimait pas vraiment. C'était pas un homme de conflit. Il aimait pas ça. Il y a deux idées, c'est on va tous organiser, même Kubrick le dit, je pourrais pas répéter tant que j'aurais pas vu les costumes et les acteurs dans les lieux tels qu'ils sont, et il y a toute une idée du cinéma classique qui dessinait des angles de prise de vue, dire il va se mettre là, il va se mettre là, moteur, et, coupé, on reprend, alors il y a toute une idée très figée du cinéma dont on est sorti heureusement, qui a pas été, tout le cinéma français a pas été comme ça, mais c'est une tradition, hein, de Clouseau à Costa Gavras, enfin, des gens qui ont été d'ailleurs assistants, et il y a toute une idée différente qu'on a chez Grémillon, qu'on connaît un petit peu tous les gens, Fulz, donc sur une idée de plan séquence, et je lui ai proposé de tourner entièrement Série Noire en continuité, sans couper, et de rien faire tant qu'on n'avait pas vu répéter les acteurs. Ces deux choses-là, pour lui, étaient extrêmement compliquées. Tant que c'était pas complètement prévu, écrit et préparé sur le papier, il aimait pas ça. Donc il a pas été très heureux sur le tournage. Moi je l'étais, donc c'était difficile de verre, était étonnant. On a été très très loin dans l'improvisation, c'est-à-dire de pas couper. Il y avait même dans les petits lieux, dans la salle de bain, dans la maison de verre, on avait deux caméras, pas la vision, dans une salle de bain, et un truc, c'était assez rigolo. Voilà encore une fois typiquement le film que je retrouve quand je vois le film monter. Il y a une liberté des acteurs qui est impressionnante. Et alors, toutes les scènes sont pré-éclairées. Je touche pas la lumière. Faut pas se tromper. À ce moment-là, la pellicule, elle est pas si sensible. Faut pas se tromper. Faut essayer avant. Et comme dans tous les films où il y a peu d'argent, il faut être extrêmement préparé. Il faut préparer longtemps avant pour que ça coûte pas cher, qu'on merde pas. Et il n'y a pas de Danny Croch dans le film. Les scènes de nuit sont intéressantes, c'est un peu gonflé dans la lumière. Je fais partie de ces gens dont la référence est Gordon Willis, j'ai pas peur de l'ombre, moi. Et dans le film, là, c'est assez le côté sombre hein, des personnages correspond à une manière, pour moi, une manière de filmer et d'éclairer. Voilà.
Alors, Série Noire, c'est un titre évidemment symbolique, mais tout de même, si on regarde votre filmographie, on n'a pas évidemment passé en revue tous vos films, mais il y a tout de même pas mal de films qui appartiennent à ce genre de films noirs.
Oui.
Je pense par exemple des deux films de Jean-Claude Mission que vous avez photographiés, Tir groupé et Ronde de nuit.
Oui,
c'est là aussi le monde de la nuit, le monde de, des hors-la-loi. Des...
Oui, mais c'est un genre...
C'était votre travail de diplôme.
C'est mon boulot de diplôme, et puis c'est un genre que j'adore par ailleurs. Mais entre Police Python et La Menace, qui est un film tout à fait intéressant aussi, je vois un formatage d'une manière de tournage que je n'ai pas dans Série Noire ni dans France Société Anonyme. Encore une fois, je vous parle de la jouissance esthétique qui est essentielle à notre métier, qui est essentielle pour moi. Je l'ai beaucoup plus quand je fais, quand je vois France CSA, que quand je vois Police Python. Et l'idée d'infléchir le genre, de le faire bouger, de le faire passer, comme peut le faire Scorsese, après, d'essayer de tordre le genre et de le faire évoluer, c'est ce qui est intéressant qu'on fait de la lumière dans un film noir. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de films noirs, et pas toujours de bons souvenirs, comme Le Choc, le film de Robin Davis, quand c'est qui sont des très mauvais moments à passer pour à tout point de vue.
Alors la rencontre tardive de Claude Lelouch, qui a appartenu à la même génération que la Nouvelle Vague sans en faire partie, mais vous retrouvez avec Lelouch dans Hasard et Coïncidence ou bien Now, Ladies and Gentlemen, l'amour des comédiens.
Oui.
Vous partagez avec lui. Il y a tous les comédiens qui travaillent avec Lelouch sont félicites parce qu'ils sont heureux avec lui.
On peut pas, mais être heureux sur le plateau, c'est-à-dire l'enthousiasme, l'énergie, on va dire même la force que ce type qui est pas très athlétique a sur un plateau, l'énergie qu'il apporte aux comédiens, c'est assez étonnant. Puis c'est un système de tournage qui était passionnant. Enfin, moi j'ai accepté de faire le premier film en lui demandant. Ce qui m'intéressait, moi, de faire un film sur lui en même temps, c'est de faire un film sur Lelouch, à la Lelouch, pendant que je tournais le film. Donc j'avais un opérateur qui tournait toute cette manière de faire, de mettre en place, de tourner, qui est passionnant. C'est vrai que le rapport de Lelouch au cinéma, c'est fait partie de ces gens qui ne sont heureux que sur des plateaux. Sa vie personnelle est pas forcément en accord avec le plaisir qu'il a à tourner. Et donc il était heureux. Et dans l'écriture, alors il y a plein de clichés complètement faux. Moi, j'étais pas du tout fanat du cinéma de Lelouch. Il y a plein de clichés complètement faux sur cet homme qui est, on dit, il travaille pas les scénarios. C'est un type qui se levait à ce moment-là tous les jours à 4-5 heures du matin, travaillait 3-4 heures par jour et qui m'a donné un scénario de Hasard aux Coïncidences qui devait faire 400-500 pages. Et c'est la seule personne que j'ai vue qui convoque toute l'équipe et qui met toute l'équipe dans une salle et qui leur raconte le film du début jusqu'à la fin sans prendre de notes. Il a le scénario devant lui, on a tous notre scénario. Il raconte le scénario dans son intégralité. Alors après, ce qui est une interprétation, on va dire, sociologique de la fascination de l'argent et du monde des voyous et tout ça, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais le plaisir à tourner avec lui. Alors ça, c'est un truc qu'on ne devrait pas dire, mais il a une image de caméraman, de type qui fait tous ses films caméra à la main, et je pense pas que c'est ce qui soit de plus intéressant dans ce qu'il fait. Ce qui est intéressant, c'est les acteurs. Je le trouvais pas très précis sur ces cas. Je lui ai proposé, moi, de tourner hasard ou coïncidence, avec une longue focale, une tête manivelle et des objectifs, une longue focale, pendant que lui, il tournait à la main. Alors ça donne un truc assez marrant. Donc dans le premier film, il a pris, on va dire, 40% de ce que j'avais fait, parce que je tournais des... On va dire, c'est pas des plans de coupe, c'est des plans qui sont en séquence, dans lesquels il passe souvent dans le plan en courant derrière les acteurs. Et puis dans le deuxième, ça a été beaucoup plus évident et il m'a laissé, c'est-à-dire que, alors il est très emmerdant, c'est-à-dire qu'il faut pré-éclairer, il croit beaucoup à l'improvisation, sauf que il donne le texte juste avant, ce qui plaisait pas beaucoup à Jeremy Irons, donc il aurait bien aimé avoir quelque chose avant. On met deux caméras et puis il dit à l'un et à l'autre de répéter après lui et de le jouer comme ça sur la spontanéité. Alors tout ça, à mon avis, ne fonctionne pas tellement bien quand on fait 10 fois la prise. C'est rarement bon la première fois. Et toute cette théorie de cinéma de la spontanéité, elle est terrible parce que tous les repérages que j'ai faits dans les deux films, parce qu'on a quand même fait le tour du monde, il faut prévoir en lumière, à ce moment-là, on n'était pas encore dans le cinéma numérique, il faut prévoir en lumière ce qu'il va pouvoir faire, jusqu'à où il va pouvoir aller. Et sur des magasins, des grosses, des caméras 35, c'était maximum, c'est 10 minutes, je pouvais prévoir ce qu'il allait faire. Alors, il m'a fait inventer des trucs. Il m'a fait inventer ce qu'ils appellent les géniaux maintenant. C'est d'avoir des télécommandes sur le diaph et sur le point, avec une petite télé où je voyais tout ce qu'il faisait, parce qu'il pouvait partir caméra à la main, courir derrière un acteur, monter dans un taxi, s'arrêter, descendre dans le métro. Donc, j'avais trouvé l'idée de prévoir. Donc, je voyais toujours, je le suivais, et je voyais toujours ce qu'il faisait, et je pouvais agir sur le diaph dans les endroits qu'on avait repérés avant. Je pouvais pré-éclairer des lieux et c'est le début de l'étalonnage numérique. Donc j'avais tous les trucs en main pour faire deux résultats de point de vue, on va dire, d'image de lumière, pour moi très satisfaisant, d'autant plus satisfaisant qu'a priori il dit qu'il s'en fout et que c'est important, c'est les acteurs. J'étais très content du premier et encore plus content du second, là où je pense que j'avais le mode d'emploi. J'ai refusé de bosser avec lui dès qu'on est passé au numérique, parce que autant je pouvais prévoir sur 10 minutes, autant avec des caméras de 40 minutes d'autonomie, j'étais foutu. Je pouvais pas le suivre, cavaler sur des films qui sont, d'un point de vue photographique, à mon avis, beaucoup moins intéressants. Mais bon, cet homme est un homme de cinéma, il a souffert tout le temps d'avoir été vilipendié, mis à l'écart de la nouvelle vague, et il a fait quand même pas mal de films vraiment intéressants.
Alors, pour terminer, il y a cette rencontre aussi avec un très grand cinéaste qui est Maurice Pialat, dont vous avez filmé, enfin deux films, Passe ton bac d'abord et Loulou.
Oui.
Enfin, passe Loulou ton... en partie.
Passe ton bac d'abord, je vais vous raconter ça. C'est mon ami Patrick Grandperret qui a commencé avec moi, qui était aussi un homme de motocyclette, avec qui j'avais fait le premier film en 72, qui m'a appelé là pour Passe ton bac d'abord, parce que le film Pialat, il avait pas été fait, il avait dépensé l'argent ailleurs et il leur restait très peu d'argent pour tenir un film à Lens avec des adolescents avec la méthode Pialat. Donc j'aime un petit peu moins en ayant pratiqué, mais j'aime beaucoup les films de Pialat. Je trouve que ces films qui ont une pareille, je suis très contre cette idée de cinéma vérité qui m'est, c'est exaspérant, il n'y a pas plus de vérité que d'auteur. Je suis contre cette idée de cinéma naturaliste, mais ces films sont des films que j'adorais l'enfance nue, hein, avec toujours un mode d'emploi sous-titré. J'avais un ami, Moline, qui est ingénieur du son, qui a quitté la profession quand il a vu la manière dont les choses se faisaient, parce que c'est toujours pas des tambouilles très très propres. Et cette idée de réalisme et de réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est la fiction. C'est pas qu'on coupe une jambe à quelqu'un pour voir s'il a mal, c'est que ça soit joué, c'est qu'il y a une fiction. Et donc, il y a toute une idée de réalité violente imposée aux acteurs chez Pialat qui n'est pas sous-titré dans les films, parce que les lecteurs sont justes. Mais on voit qu'ils prennent des coups, on voit que d'un plan sur l'autre, il y a un nion sur le visage d'une actrice. Ça, moi, je l'ai vécu sur le Passe ton bac, avec des scènes d'une extrême violence, où encore une fois, on a envie d'aller dire aux acteurs, aux actrices, te laisse pas faire quand elle en tape la tête dans les murs. Enfin, c'est assez désagréable. C'est-à-dire qu'il y a tout un côté, je vous dis, non-assistance à personne en danger, et on a un sentiment de voyeurisme extrêmement désagréable quand on voit la souffrance, alors qui, à l'image, est quelque chose qui fonctionne assez bien. Alors, l'idée de mettre la merde sur un plateau, de créer des rapports de tension entre les gens et puis de les filmer comme ce que j'ai fait sur Passe ton bac et sur Loulou, cette manière de faire, sans vergogne et perverse, elle a des résultats. Je vous dis que quand on parle un petit peu de la cuisine, faut pas jamais trop parler de la cuisine, faut parler de ce qu'on mange, mais quand on parle de la cuisine, comme on essaye de le faire depuis quelques temps tous les deux, disons que c'est des cuisines pas propres, voilà. C'est tout ce que je voulais dire dans les interviews que j'ai faites quand j'ai été extrêmement peiné, déçu de la pratique sur Loulou. C'était Jean-Pierre Janssen et puis Patrick m'appelle, au secours, Piala vient de se battre avec Jean-Pierre Janssen, l'opérateur, il l'a fait descendre d'une échelle parce qu'il était drôle, il faut que tu viennes me dépanner pour une journée, pour retourner une journée avec Huppert et Depardieu. J'ai dit je peux pas te dépanner une journée, je fais... Essaye de trouver quelqu'un pour la semaine qui vient. Moi, je suis en préparation d'Extérieur Nuit, encore un de ces films fait par Jacques Brel, qui est un peintre, et qui est un film extrêmement intéressant,
très beau,
qui était un type qui m'avait vraiment impressionné dans sa vision des choses. Et on fait un film pas cher, là, on est en préparation. Je peux demander si on peut reculer. Tournage d'une semaine. Parce que, bizarrement, avec moi, Piala, il était extrêmement déférent, toujours provocateur, toujours emmerdant, il me tournait le dos pour dire qu'est-ce que c'est que ces opérateurs qui aiment pas qu'on filme les morts. Il parlait de Nestor qui m'avait dit qu'il avait été épouvanté quand ils avaient été ouvrir la tombe de sa mère un an après pour faire le dernier plan de la gueule ouverte, filmer le visage de sa mère en décomposition qu'on voit sur le truc.
Nestor,
il m'avait raconté ça. Puis là, c'était pareil. Avec moi, il était tout à fait gentil, mais il venait avec mon chèque, parce que c'était un film produit, là, qui a coûté une fortune pour tourner dans des coins de mur et tout ça. Il venait avec mon chèque, il dit, regardez ce que c'est que les mecs d'extrême gauche, regardez les chèques qui touchent, et puis il lisait mon chèque à l'équipe. Et regardez l'argent qu'ils gagnent, les mecs d'extrême gauche, regardez, voyez, c'est ça, voilà, regardez, hein, ça vous va, ça, vous voyez ce que ça veut dire, et c'était marrant, puis un petit peu emmerdant. Enfin, je vous dis, j'ai pas eu d'autres soucis avec Piala.
Pierre-William Glenn, on pourrait maintenant parler de votre travail d'enseignant, de responsable du secteur, avec Sabine Lancelin, du secteur prise de vue à la FEMIS. Alors, vous êtes des deux côtés, puisque vous aviez été étudiant à l'IDEC et aujourd'hui enseignant à la FEMIS, qui a succédé à l'IDEC. Comment avez-vous vu l'évolution de l'enseignement entre l'étudiant que vous avez été et puis ceux que vous formez aujourd'hui?
Tout simplement prendre le contre-pied de ce que j'ai connu, de ce qu'était la prise de vue dans les années 60, où les chefs opérateurs, qui étaient des gens tout puissants, puisque en fonction de leur savoir, on voyait ou on ne voyait pas, jusque les premières cellules photoélectriques, je vous le disais, datent de 47, donc on ne savait pas mesurer la lumière. Et les chefs opérateurs, de là leur statut de star dans les années 30, 40, 50, indépendamment des rapports qu'on n'aura pas le temps de traiter avec les comédiens et les comédiennes, étaient des gens qui avaient des petits fauteuils, des grelots dans lesquels ils sonnaient, ils étaient coupés à tout bout de champ, et c'était des gens qui ont été mis à mal par la Nouvelle Vague et par son incarnation, Raoul Coutard, en disant « Tout ça, ça parle pas vraiment de liberté, on y revient. » J'ai connu, moi, une époque où les chefs opérateurs avaient des petites mallettes, des caisses avec des filtres dedans. Et quand ils mettaient un filtre, il fallait tourner la tête pour regarder le fil qui était mis et qui mettait un Chatterton sur le diaph pour pas qu'on voit pendant la prise le diaph qui était mis, et qui, quand la prise était terminée, retirait le filtre, le remettait dans leur boîte qui était fermée à clé avec un cadenas, et qui retirait leur Chatterton pour brouiller le diaph. Donc cette idée de magicien, de type qui fait quelque chose qui n'est pas transmissible et qui a ses secrets propres. Je suis arrivé dans une profession qui avait bien évolué avec la nouvelle vague de ce point de vue-là. Mais le principe du secret, d'avoir ses secrets de fabrication, de tournage, c'était quelque chose qui était difficile. J'ai eu la chance d'avoir à l'IDEC un homme comme Alain de Robe qui en était le contraire, mais qui avait été longtemps assistant d'Henri Decas et qui avait été un assistant assez brillant, qui avait un sens mécanique, un sens manuel étonnant, qui savait tout faire avec ses mains, qui m'a appris à développer les bouts d'essai. J'ai été comme stagiaire sur les films qu'il a fait avec Decas, sur Monsieur Joe, qui était un type qui transmettait. Mais moi, l'idée là que j'ai eue bien longtemps après, l'idée de donner à des gens qui se dessinent au cinéma tout ce que j'avais pas eu, c'est ce qui m'a motivé, c'est-à-dire de transmettre une manière de faire qui, de toute manière, n'a aucune incidence. Vous pouvez mettre 10 produits pour de la cuisine à 10 personnes différentes en disant vous allez faire un plat, il y en a pas un qui fera la même chose, il y en a un qui sera bon, il y en a un qui sera pas bon, ça s'appelle le talent de cuisinier. Et ça s'appelle le talent d'un chef opérateur. Donc l'idée, on va pas du tout dire ce qu'on fait, comme on fait, et ça reste secret. J'ai eu la chance d'avoir Alain au départ, mais déjà dans les gens dont je vous citais que j'avais, l'idée qu'Albicoco, c'était comme ça, c'était des gens qui ne voulaient pas dire la manière dont ils fonctionnaient. Donc je suis rentré à la FEMIS à la sollicitation de Alain Auclair d'abord, qui m'a pas pris la première année, parce que j'avais dit, à ce moment-là, c'était en 2003-2004, que la section image de l'école Louis Lumière était largement supérieure au niveau de la section image de la FEMIS. C'était la réputation de l'époque, et à mon avis, c'était une réalité. Quand je suis arrivé pour voir éventuellement ce que je ferais, il y a un élève qui est venu me demander, qui était reçu aux deux concours, et il m'a dit, je vais où? Donc j'étais à la FEMIS. J'ai dit, t'es en quel département? Il m'a dit, image. Ben, j'ai dit, le meilleur département, c'est Louis Lumière. Alors, j'ai été convoqué à la direction, on dit, on veut vous prendre là pour faire venir ici, vous dites que c'est mieux chez Louis Lumière. J'ai dit, oui, mais justement, moi, mon ambition, si je prends cette fonction, ça sera de faire passer le département image au-dessus, et très au-dessus, de ce qu'est Louis Lumière, de par ma manière de faire du cinéma, de par les gens que je vais amener, et de par des programmes que je vais faire pendant 4 ans. C'est Marc Nicolas qui, après, a dit « tu vas venir », qui est malheureusement mort et qui était un homme aussi assez étonnant, un homme orchestre étonnant. J'ai mon complice, c'était Jean-Jacques Bouhon, qui était un type aussi un très très bon technicien, qui a fait un travail qui était très très fort dans le noir et blanc. Et pendant 4 ans, on a mis en place des programmes avec un échelonnage sur toutes les promotions, il y a 4 ans à l'école, et tous les exercices que l'on impose aux élèves, avec des intervenants, on les a fait nous-mêmes. Lumière et contraste, étalonnage, maquillage, coiffure, filtre. On a fait tous les exercices, on les a mis en place. Donc c'est toujours un programme, il y a le temps est passé, qu'on a amélioré pendant 15 ans et qui amène les élèves de l'école à une reconnaissance dans le métier qui a énormément changé. Et ça fait partie de mes satisfactions. J'ai une bande d'élèves qui sont sortis il y a 6, 7 ans, 8 ans, qui sont des gens remarquables. Éponine Momenceau a fait le DIPAN de Audiard, je trouve le travail formidable. Julien Poupard, qui est sorti il y a 7, 8 ans, a dû faire une bonne quinzaine de films. J'ai David Chizalet, qui a fait Mustang, et qui sont des types qui sont très demandés. La Hutte, Paul Guillaume, le film qui s'appelle Ava, est un... Et j'ai une vraie satisfaction d'avoir créé ce que j'ai pas vécu. Alors c'est un magistère quand même, il y a que si, ça ressemble au Moyen-Âge. Hein. C'est vraiment de l'enseignement quasiment personnel. Les élèves, on les voit avant leur tournage, on a leur projet. Quand ils sortent de l'école, ils m'appellent pour me dire « j'ai fait tel film, viens le voir et tout ce que je fais ». Et il y a une espèce de communication interne au département image qui existe sur les 4 années et qui est quelque chose qui fonctionne. Vu les résultats, ces élèves s'intègrent très rapidement dans la profession de cinéma. Moi, je suis là pour ça. sur les relations que j'ai. J'essaye de les aider quand je peux intervenir sur une demande de film, je le fais. Alors c'est très prenant au temps, parce qu'ils peuvent venir vous voir le samedi, le dimanche. Les travaux de fin d'études, la dernière année, c'est un mémoire à écrire et un film à réaliser par rapport au mémoire. Donc on a le mémoire à l'écriture, on a le film à la préparation, on a le film à l'écriture, parce que j'aide aussi des films à être écrits. Donc c'est un travail très prenant, mais intellectuellement satisfaisant.
Si je comprends bien, dans la filière chef opérateur, le chef opérateur ne se contente pas de faire la photo, mais il est amené aussi à diriger, ah oui, à réaliser un film.
Oui. La dernière année, ils réalisent, et ça, c'est qui est très compliqué pour eux, c'est que ils sont, à mon avis, à un très bon niveau technique, parce que la qualité des intervenants qui viennent, c'est le top de la profession, que ce soit en post-production, que ce soit, je vais dire, sur l'apprentissage des machines modernes et tout ça, numérique, tout ça, ils sont très très forts, sur les logiciels de montage, ils sont vraiment bien, mais en dernière année, ils doivent réaliser un film qu'ils éclairent. Et ça, c'est un exercice auquel ils sont pas tous préparés. On les prépare, ils ont un an pour le faire, et ils interviennent en même temps sur les travaux de fin d'études des autres. Ils doivent en faire deux autres que le leur. Et là, j'ai des résultats qui sont assez bluffants. J'en ai toujours un qui est au jury, un an sur deux, au jury du prix de la CST à Cannes, le prix Vulcain, artiste technicien. J'en ai toujours un ou deux, et j'en ai eu trois au festival de Richmond en Amérique, sur les 12 courts-métrages français. Ça, c'est mes amis américains qui choisissent, mais je suggère. Et je veux dire, pour moi, là, il faut que je m'en aille si je veux retourner des films importants. Là, maintenant, ça me prend un temps qui ne correspond absolument pas au statut financier qui m'est donné, mais ça m'intéresse. J'aime bien ce lieu, j'aime bien les gens qui sont là, et j'ai pas de faux pas, j'ai toujours un dingue, ou une dingue une fois tous les 3-4 ans, mais ça, c'est normal, sur 6, j'ai 24 élèves, quoi. Oui.
Alors, il y a une chose aussi qui est frappante pour la France, c'est la présence de nombreuses opératrices, chefs opératrices.
Oui, formidable.
Les femmes, bon, déjà, nous avons beaucoup de réalisatrices, qui est plus que la plupart des pays, mais en plus, le métier de chef opératrice est plus riche en France que dans aucun autre pays, et donc vous avez aussi ouvert la filière aux femmes.
Aux femmes, monsieur, oui, dans les années 70, c'était le métier de opérateur, directeur photo, c'était un métier d'homme, il n'y avait pas de femmes. Et je suis le premier avec tous les problèmes qu'il pouvait y avoir sur ma jeunesse, mon engagement politique, syndicalisme, tout ça, j'ai ajouté l'idée que je suis le premier type qui a pris des femmes comme assistantes, ce qui a fait un tollé, que c'est des femmes dans le métier, ça va être le bordel, les mecs, en toi compte, en tournage, en extérieur, le bordel que ça va être. Je suis très content d'avoir fait ça, parce que, d'abord, la profession s'est ouverte, elle s'est évidemment pas féminisée, mais c'est une autre manière de faire les choses. Le matériel s'étant allégé, il n'y avait plus les caméras de 80 kilos, il n'y avait plus de caméras Technicolor, toutes les caméras, ça s'est allégé. Et il y a une autre résistance, moi j'ai vu sur des tournages extrêmement fatigants et difficiles, une autre résistance inattendue souvent chez les femmes opératrices. Alors la promotion, les femmes opératrices là maintenant en France, pensez à Agnès Godard, je vais dire, pensez à Caroline Champetier, Hélène Louvard, Jeanne Lapoiry. Pensez à cette promotion qui arrive. Là, derrière, il y a des gens comme Marine Atlan qui arrive. Là, je vous dis, Éponine Momenceau. Pour moi, c'est un pur génie. Et il y a une génération qui arrive. Là, il y a eu même des choses assez étonnantes. Il y a des promotions la troisième année, cette année. Il y a 5 femmes et 1 mec. Et c'est pas la plus mauvaise promotion, c'est plutôt pas mal. Et donc, je vous dis, mon bilan, j'ai quelques motifs de satisfaction dans ma vie quand même, j'en ai quelques-uns, j'ai fait le quart de ce que j'aurais voulu faire, mais il y a l'école, la transmission, l'AFC. L'AFC, j'ai trouvé le local juste à côté de la FEMI, c'est la plupart des opérateurs connus interviennent dans l'école comme encadrant, comme encadrant les exercices dont je vous ai dit qu'on a mis en place sur un programme très très pointu. C'est quand même pas mal. Ils sortent de là, ils savent quelque chose sur les caméras et la lumière.
Merci beaucoup, Pierre-William Glenn. Alors demain, nous terminerons votre parcours avec d'une part votre travail au Festival de Cannes et de la Commission supérieure technique, et puis aussi votre expérience de metteur en scène.
Merci, Monsieur Simon.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Michel Simon avec Pierre-William Glenn. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Jean-André Giannichini, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.